Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
On n'est pas forcément d'accord.
Pas facile, pardonnez-moi. On va donc faire le point maintenant avec nos invités sur cette semaine de buzz que nous avons vécue. Et c'est pas très facile d'y voir clair parce qu'il faut le dire, on est confronté en ce moment à une série accumulée de buzz permanent, à tel point qu'on se demande si on traite encore d'informations parfois ou si on est dans le coup d'état permanent avec des choses totalement artificielles. Alors il y en a de toutes sortes. La première étant ce qu'on a vécu cette semaine avec ce rappeur qui a réussi à s'offrir une campagne de publicité absolument invraisemblable alors qu'il avait à peine une quarantaine de followers qu'il suivait sur Twitter quelques jours auparavant. Qu'est-ce que ça nous dit de la société française et de la façon dont ça peut exploser comme ça d'un instant à l'autre ? Nicolas Domenac.
Ça nous dit d'abord qu'à la place de la lutte des classes, si j'ose dire, on a la lutte des clashs, au fond, la lutte des trashs, et qu'il y a une escalade, une surenchère permanente. Alors, ça a toujours existé, hein, d'une certaine façon, les dérapages. Simplement, c'est vrai que la multiplication des médias et l'évolution du métier de journaliste vers l'organisateur de spectacles, de clashs, justement, eh bien, fait que tout ça s'est amplifié et que ça nous interpelle directement. Alors, pour la société, ça nous dit les fractures qui existent, eh bien, au lieu de se soigner, de se réparer, s'aggrave et s'accentue parce que ces clashs, ils ont cette conséquence-là directe, c'est-à-dire de favoriser la haine, l'opposition des communautés les unes contre les autres, et non le bien commun et le bien public.
Ouais, c'est toute la différence qu'il y a entre nous, Nicolas Domenac, c'est que vous pensez que ces clashs attisent les haines. Moi, je pense qu'ils sont le reflet des haines. C'est-à-dire que je pense que le clash, c'est le degré zéro du débat public, mais c'est quand même du débat public. C'est-à-dire que pour un certain nombre de gens qui sont pas suffisamment à l'aise avec un débat médiatique, politique, sociétal, un petit peu élaboré, eh bien c'est une espèce de soupape, une espèce de c'est comme le bouchon de la cocotte minute qui saute de temps en temps. Il faut bien le dire, dans les médias une façon de parler, une façon parfois d'euphémiser, une façon d'éviter les problèmes qui ne correspond pas à la réalité que voient un certain nombre de gens.
Vous nous dites quoi ? Qu'il n'y aurait pas des buzz et des clashs de ce type si par ailleurs on avait une capacité, selon vous, Guillaume Roquette, à aborder plus directement des problèmes de société qu'on évite ou qu'on ne nomme pas ?
Absolument, c'est exactement ce que je pense. Par exemple, dans le débat public, le concept de racisme anti-blanc est un monopole de l'extrême droite. Personne d'autre n'en parle. Il y a plein de gens dans les cités qui vous diront que le blanc, c'est celui qui baisse la tête dans un certain nombre de lieux, dans un certain nombre de lignes de chemin de fer. Et ce clip dont vous parlez, c'est le reflet évidemment déformé, outrancier de quelque chose qui existe néanmoins.
Je vois pas ce que ça apporte au débat public de traiter les homosexuels de pervers, de traiter les policiers de barbares sanguinaires, etc., etc., de dire qu'il faut égorger les femmes blanches et leurs enfants dans leur ventre, qu'il faut les tuer. Je pense que c'est la négation même du débat. Moi qui ai toujours défendu, mais alors le débat jusqu'au bout, et je continuerai, mais je pense qu'il ne faut surtout pas l'interdire. Je pense que là, on est arrivé à une perversion, et même mon ami Éric Zemmour, avec qui je dialoguais ici même très volontiers et très souvent, je veux dire, on a discuté des prénoms, par exemple, avec Yves oui. Calvi, mais des dizaines de fois, mais pas sur cette intensité, cette agressivité. Je termine. Je veux dire, jamais il n'a dit que c'était une insulte à la France, jamais il n'a insulté personne. Or là, dans une émission où c'est monté à l'avance. C'est monté, on est dans la mise en scène spectaculaire. C'est pas une parole qui aurait pu l'échapper. Et ensuite, il parle de donner 12 balles dans la peau à Maurice Audin. Je veux dire, on n'est plus du tout dans le débat. On est dans la négation même du débat, dans l'inverse. Et moi, je pense que il faut dire halte là et rappeler et les intervenants et les journalistes à leur métier parce que ça s'accompagne du populisme. Exactement ça. Ça va avec les mensonges et le complotisme. Tout ça fait un tout. Donc si on ne dit pas halte là et stop, il faut lutter contre, eh bien, on y participe.
Je suis en partie d'accord avec ça. Vous parliez de cette polémique autour d'Éric Zemmour. Dans le Figaro Magazine, quand on a parlé du nouveau livre de Zemmour, on y a consacré 11 pages. On a mis des extraits assez longs. On a mis un article.
Et on ne parle plus du livre. On ne parle plus du livre maintenant.
Je suis d'accord avec ça.
Cause des médias. Mais qui est allé mettre
ce sujet des prénoms dans un débat télévisé ? Ça n'est pas Zemmour. En l'occurrence, il a eu une expression qu'il n'aurait pas dû avoir. je le dis en toute amitié pour lui, et qui d'ailleurs ne devait pas être passé à l'antenne, et c'était heureux. Mais c'est cette phase, encore une fois, on est en mode dégradé. Mais le, comme vous l'avez dit très justement, Nicolas, le prénom, c'est un point essentiel sur ce sujet de l'assimilation. Est-ce que quand on est des parents français, musulmans, on rend service à son fils en l'appelant Mohamed, c'est-à-dire Mahomet, le nom du prophète de l'islam? C'est un vrai débat. Alors on peut dire, il ne faut pas en parler comme ça. Oui, je suis d'accord, mais mieux vaut mal en parler parfois que de ne pas en parler du tout.
Il y a quelque chose qui me frappe depuis le début de votre entretien, c'est que vous êtes d'accord l'un et l'autre pour dire que, en fait, on discute de vrais débats de fond, mais d'une mauvaise façon. Si je ne déforme pas votre pensée, en tout cas d'une façon qui peut être dangereuse pour Nicolas Domenac, mais que vous finissez vous parfois par défendre parce que vous dites au moins c'est un moment où on débat Guillaume Roquette. Derrière tout ça, qui profite de ces débats dégradés?
Et moi, je pense que la logique, c'est que, au fond, les extrémistes, les populistes en profitent, que ça fait un tout, je vous l'ai dit, avec le complotisme, avec la notion de vérité alternative. Il n'y a plus aucune hiérarchisation des informations, ni la vérité n'existe plus. Il existe des vérités alternatives, au fond, et on peut dire, c'est pas vrai, sans doute, mais ça aurait pu l'être, enfin, ou des choses comme ça. Et puis, soyons clairs.
Vous êtes sûr qu'il n'y a que les extrémistes qui utilisent les effets? Moi, je pense que c'est...
Dans l'intensité, tout le monde y participe, peu ou prou. Hein. Mais nous aussi, d'ailleurs, les journalistes, je me suis mis en cause. Regardez le système, comment fonctionne. On sort du contexte une phrase et on la martèle, on la matraque pendant des jours. Je peux vous prendre d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon quand il traite le président de la République de pire, des xénophobes. Mais on ne donne pas le contexte. À aucun moment, on raconte que précédemment, quelques heures avant, le président de la République avait dit que Jean-Luc Mélenchon était un xénophobe, et c'était une réponse, etc. Oui. Donc si on ne contextualise plus rien, si on hiérarchise plus rien, eh bien ça dégrade le débat public et les politiques y participent aussi.
Mais là, on est d'accord, mais encore une fois, il y a un principe de réalité. Vous n'allez pas couper Twitter. Et donc, vous ne pourrez pas arrêter ce mouvement. Nous sommes dans une société qui est de plus en plus violente, pardon de cette banalité, qui est en proie à une forme d'ensauvagement social dans les relations entre les gens. Il suffit parfois de prendre sa voiture pour s'en apercevoir. Donc, c'est à nous de nous approprier ce buzz, de refuser de nous limiter. On doit répéter du matin au soir, c'est plus compliqué que ça. Mais quand vous dites le buzz favorise les fake news, la manipulation, c'est pas complètement vrai. Regardez, pendant les campagnes électorales, il y a des fake news, mais un buzz peut en arrêter un autre. Vous savez, quand vous avez un candidat qui dément quelque chose avec quatre lignes sur Twitter, parfois c'est suffisant pour arrêter cette polémique. Donc je pense encore une fois que oui, les extrêmes en profitent, mais raison de plus pour ne pas le leur laisser. Alors après, on peut dire ce serait mieux si on échangeait entre gens courtois avec des articles de 10 pages, mais on les a pas toujours.
Non, mais Napoléon faisait du buzz à sa façon, avec ses publicitaires, ses peintres. De Gaulle aussi, et il racontait une histoire, une légende de la France debout, qui avait résisté tout entière. Mais il y a buzz et buzz quand Trump se fait élire en racontant mensonge sur mensonge, en les enquillant les uns après les autres. Eh bien, ça implique une insurrection et une défense de la rationalité, de la véracité.
L'avènement des réseaux sociaux, il participe largement.
Il participe.
Hein. Mais justement, le buzz, c'est un nouveau moyen de communication. C'est en quelque sorte un média. C'est difficile de dire si un média est bon et mauvais. C'est ce qu'il y a dedans qu'il faut juger.
Le buzz est un média. On va se séparer sur cette dernière notion. Merci à l'un et à l'autre, Nicolas Domenac. Merci à vous, bien entendu, Guillaume Roquette. Vous serez au grand jury dimanche, à partir de midi, avec
Valérie Pécresse.
Et puis, à la une du Figaro Magazine cette semaine, le nouveau philosophe à 32 ans, François-Xavier Bellamy, redonne des idées à la droite. Visiblement, il vous plaît beaucoup, Nicolas Domenac.
Tu es fan.
Voilà un garçon qui est ouvert. Merci beaucoup à l'un et à l'autre.